Et quand l'usine aboie, le pays chasse.
Radio Ulest.
Oui, c'est vrai, avec les oreilles, j'y vois mieux.
J'ai essayé de vous présenter quelques réflexions en cours.
Samedi 21 août, les entretiens du Zest. L'image brûle, causerie de Georges Didi Huberman, philosophe et historien de l'art.
J'ai publié il y a un peu plus d'un an un livre, malheureusement, qui a suscité une certaine polémique. Il s'agissait d'un livre sur quatre photographies prises au camp d'Auschwitz par les prisonniers d'Auschwitz. Je ne veux pas revenir là-dessus, simplement un des points polémiques qui a été le plus virulent, c'était que au fond, on me reprochait d'avoir devant ces images de l'histoire, ces documents qui n'étaient évidemment en rien des œuvres d'art. Et ça, je suis le premier à... Enfin, la question de l'œuvre d'art ne se pose pas du tout avec ces images, mais la question de l'image se pose avec ces images. C'était que, justement, je les regardais, ces images, avec peut-être trop de sens esthétique ou empathique ou je ne sais quoi. C'était ça le problème. Alors, à partir de là, quelqu'un du centre Pompidou à Paris m'a adressé une série de questions. Je vais vous proposer une série de petites bribes de réponses aux questions que regarder ce genre d'image peut poser. Mais bien sûr, comme nous sommes ici dans un festival où il y a beaucoup d'artistes, et je répète, l'association Artistes et Associés, elle dit bien son nom, donc il est question de ça aussi. Ça aboutit à poser des questions sur le rapport entre l'image, l'art et l'histoire. Bon, une image, ça imite, comme on sait, depuis le début, enfin, c'est-à-dire le premier grand traité d'esthétique en Occident, c'est la Poétique d'Aristote, ça commence comme ça. Les arts sont faits pour imiter, les images imitent, et ce qui est très très beau, si vous ouvrez ce livre d'Aristote, c'est que dès le début, Aristote complique la question, il dit « imiter s'entend de façon différente ». Ce n'est pas la même chose si j'imite votre visage pour faire votre portrait ou si je veux imiter votre bravoure ou si je veux imiter quelque chose d'autre. Imiter s'entend en plusieurs sens, on le sait. Maintenant, on sait aussi que de nos temps, imiter va de crise en crise. Nous sommes dans une époque de la crise de l'imitation. Et je dirais que de la même façon que imiter s'entend dans plusieurs sens, il me semble que les images, elles ne se contentent plus d'imiter aujourd'hui. Elles font pire que ça. Les images brûlent. Ça sera ma proposition, là. Aujourd'hui, les images brûlent. Et maintenant, il faudrait entendre en quels différents sens peut s'entendre cette expression « l'image brûle ». Tu pourrais passer les deux prochaines ? Merci. Un autre repère très important dans l'histoire de la pensée philosophique, c'est lorsque Kant s'est demandé qu'est-ce que c'est s'orienter dans la pensée. Alors on apprend ça en classe de philo. Maintenant, dans notre pratique quotidienne, dans notre rapport aux images aujourd'hui, on ferait bien de se poser la question qu'est-ce que c'est que s'orienter dans l'image. Il y a beaucoup de débats philosophiques en ce moment sur ces questions. Par exemple, un philosophe comme Jean-Luc Nancy, qui autrefois, je m'en souviens, était très méfiant à l'égard de la question des images, comme tout en général, comme les philosophes classiques, Il a récemment écrit un très beau livre qui s'intitule justement le fond des images, dans lequel il dit que un des grands tournants de la philosophie moderne, c'est d'avoir transformé le problème de l'image en tant que mensonge, ça c'est Platon, grosso modo, en une problématique selon laquelle la vérité elle-même serait une image. Et selon Jean-Luc Nancy, on doit même à Kant cette transformation du problème de l'image. Mais cette transformation, on ne voit pas très bien comment elle est traitée, et surtout chez Kant, elle est traitée de façon tellement abstraite, tellement loin des images, que je crois que la question, en tout cas, elle n'est pas résolue. Elle demeure. Et elle demeure, ça veut dire qu'elle demeure brûlante. Tu peux passer les deux prochaines ? Si vous avez... Je vous donne ces images à titre d'évocation. Je ne vais pas les commenter. Mais si vous avez des questions, qu'est-ce que c'est que cette image ? Je peux vous dire ce que c'est, évidemment. Là, à gauche, c'est la guerre en Irak. Et à droite, c'est cette fameuse photo de presse dite Madone de Bentala, sur laquelle Pascal Convert a réalisé, a fait tout un travail artistique. C'est une question brûlante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est à la fois une question très complexe, et puis c'est en même temps une question, comme elle est brûlante, on voudrait sans attendre avoir la réponse. Mais parce qu'elle est complexe, elle nous oblige à être en retard sur la réponse. Donc c'est une situation difficile. Parce qu'elle est complexe, il faut du temps. Parce qu'elle est brûlante, elle est urgente. Alors comment on fait avec ça ? Alors c'est comme ça que je dis, la question elle-même est brûlante, elle brûle. Pourquoi ? Parce que jamais, apparemment, l'image et jamais l'archive aussi, l'archive que l'image forme lorsqu'on essaye de recueillir, de comprendre, parce que l'image ne se dit jamais au singulier, bien sûr. C'est pas l'image, c'est toujours les images. Donc, aussi bien l'image que l'archive qu'elle forme, jamais il ne semble que elle s'est imposée avec autant de force dans notre univers quotidien, historique, politique, technique, etc. À la fois, elle n'a peut-être jamais montré d'image, de vérité aussi crue, l'image, et peut-être en même temps, elle n'a jamais autant menti, elle n'a jamais autant sollicité notre crédulité. Elle fait les deux en même temps. Jamais, peut-être, elle n'a autant proliféré. Et en même temps, on s'aperçoit que peut-être jamais elle n'a autant subi de destruction et de censure. On censure énormément d'images, là, au moment où je vous parle. Et jamais donc, et quand je dis jamais, c'est un petit peu une impression qui tient au caractère précisément douloureux et brûlant de la situation actuelle, jamais l'image n'a subi autant donc de déchirement. C'est-à-dire qu'elle subit des revendications absolument contradictoires, elle subit des rejets croisés, elle subit des manipulations immorales, elle subit des exécrations moralisantes, elle subit toutes sortes de choses contradictoires. On a énormément de mal à s'y retrouver. Donc, la question de Kant, que je disais tout à l'heure, comment s'orienter dans la pensée ? Il faudrait donc se poser la question, mais comment s'orienter dans les images ? Il y en a tellement. Elles sont tellement puissantes. Pour le chercheur historien modeste que je suis, on a toujours intérêt à se demander s'il n'y a pas eu avant nous des gens qui ont bien réfléchi à la question. Évidemment, il y en a eu. Donc moi, j'ai plutôt tendance à relire patiemment même si la situation est brûlante, à relire patiemment. Des gens qui, à mon avis, des penseurs qui, à mon avis, ont complètement reformulé la question de l'image. Non par hasard, tous ces gens ont tourné autour de la question de l'image dans les termes du montage. Donc ça veut dire aussi que ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cinéma, dans Godard et tout ça, est quelque chose d'extrêmement aigu dans la façon même dont fonctionnent les images. Quand Freud a un peu mieux compris comment ça se passait, la façon dont les... dont on peut rêver à un micro, par exemple, en étant bouleversé. Vous voyez, on rêve avec des images, on monte. Le rêve est un montage. Le rêve est un montage, et c'est un montage qui a cette capacité très, très étonnante de démonter complètement les rapports habituels entre le rêve et entre l'image et l'affect. Donc, Freud a réfléchi là-dessus, sur le montage à l'œuvre dans le rêve. Le grand, grand historien de l'art qui est tellement cher à mon cœur, Abi Warburg, a pensé toute la question de l'histoire des images, de leur transmission, de leur tradition, de la Renaissance, etc., etc., en termes d'une sorte de dialectique du montage. À la même époque que Abi Warburg, tu peux passer les deux suivantes ? Et encore les trois suivantes, quand tu auras le temps. Eisenstein, il faisait de sa pratique du cinéma une véritable théorie. Tu peux passer les autres, hein ? Du montage. Là, je vous montre Alexandre Nevsky, etc. À la même époque encore, Georges Bataille, qui était bien au-delà d'un simple surréaliste dissident, comprenait, recomprenait toute la question de l'histoire et toute la question... Ça va comme ça. Ça, c'est l'illustration magnifique d'un article de Georges Bataille consacré à la notion d'espace. Non, c'est parfait, t'es très bien. C'est une prison qui s'est écroulée. Et que tous ces éléments, j'ai encore oublié évidemment, mais je vais pas l'oublier, je vais vous en reparler, c'est Walter Benjamin, cet extraordinaire livre des passages qu'il a composé et qui est autant un livre qui est aussi un livre qui constitue une connaissance sur la base d'un certain type de montage. Il s'agit pas tellement de composition, on pourrait discuter de ça d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est le rapport entre montage et composition ? Mais en tout cas, là, il s'agit de montage, c'est-à-dire de montage de choses hétérogènes. Et là, c'est ce qui nous fait réfléchir à ces questions d'image, dans le sens où une image peut être à la fois un document historique, et en même temps un objet de rêve. Une image peut être en même temps une œuvre, mais simplement un objet de passage. Je dis passage à cause de Benjamin. Une image peut être un monument, mais une image peut être en même temps juste une cheville de montage, un petit truc de rien du tout, mais qui fait passer, qui donne une énergie entre deux autres images. Je répète, il n'y a jamais une image. Il y en a toujours trois au moins. Il y a toujours deux, mais quand il y en a deux, il y en a toujours une troisième. Bon, la dialectique. Une image, ça peut être tout à la fois... Et c'est la grande difficulté aussi pour les chercheurs. Une image, c'est à la fois un objet de science, pas seulement un objet sur lequel il nous faut développer une science. Une image, c'est un objet qui nous apprend des choses. Sauf que c'est très difficile de savoir comment apprendre d'une image. Surtout que l'image est traversée en même temps, alors même qu'elle nous apprend des choses, parce que Bataille nommait si bien le non-savoir. Les images nous apprennent des choses, mais les images sont toujours traversées par du non-savoir. Comment est-ce qu'on s'y retrouve là-dedans ? Comment s'orienter ? Quel genre de connaissances l'image peut-elle nous apporter ? Si on devait essayer de s'attacher à ce projet, je crois qu'il faudrait, là je suis en train de faire une sorte d'hommage à Foucault, il faudrait réécrire une archéologie du savoir, mais du savoir des images, ce que Foucault n'a pas fait. Foucault a fait une archéologie du savoir des discours. Il faudrait faire avec les images ce que Foucault a fait avec les discours. Il faudrait écrire un livre qui s'appelle Les mots et les choses, mais les images, les mots et les choses. Il faudrait essayer de comprendre tout ça ensemble. Et il faudrait essayer de comprendre le caractère crucial de cette connaissance. Je vous indique juste que ce fameux Abi Warburg dont je parle souvent, vous savez, il avait une telle conscience de la complexité de ses objets que, en fait, il n'a écrit aucun livre. Il a écrit beaucoup, il a écrit des millions de pages, beaucoup inédites, la plupart inédites, mais il s'est trouvé incapable, en fait, de fermer une œuvre. Normalement, un historien, il se prend son objet, il commence, et à un moment donné, il pense qu'il a fini. Ce qui était magnifique chez Warburg, c'est qu'il avait bien conscience qu'il n'en aurait jamais fini. Alors, au lieu d'écrire un livre, et bon, il avait de la chance parce qu'il avait une famille riche, il a donc créé une bibliothèque. Il a créé la bibliothèque la plus extraordinaire qui existe, je pense, dans le domaine des sciences humaines aujourd'hui. Et dans cette bibliothèque, donc, qui est une sorte de réseau de réponses, de renvois indéfinis d'un livre à l'autre, cette bibliothèque était organisée selon il y avait trois étages. Un étage s'appelait imaginer, un autre étage s'appelait parler, et le troisième étage s'appelait agir. Donc, il faudrait orienter notre pensée sur les images aussi par rapport à ça, au fait qu'on ne peut pas penser, on ne peut pas s'orienter dans les images sans réfléchir aussi sur ce que c'est que parler et sur ce que c'est qu'agir. Alors, je vais passer à une image. Je vais produire une image. Je vais vous proposer... pour essayer de ne pas répondre aux questions du bonhomme là, qui m'a posé des questions du Centre Pompidou, je vais essayer de faire un détour. Un détour, en fait, en grec, ça se dit tropos, ça veut dire figure. Je vais vous proposer une figure, c'est-à-dire une sorte d'image. Je vais vous proposer une image sur les images. Tu peux passer les deux prochaines ? Ah non, ça c'est Warburg. Ça, c'est la bibliothèque de Warburg. On est un peu décalé, là. C'est pas grave. Vas-y, avance. Voilà, là, tu restes là. Et tu avances à droite. C'est-à-dire voilà. Très bien. C'est des papillons. Je vais vous parler des papillons. Pour plusieurs raisons. Au moins pour deux raisons sentimentales. L'une, c'est que, comme vous le savez, quand un papillon devient adulte, on appelle ça une imago. Deuxième raison, c'est-à-dire une image. On passe de la chrysalide à l'image. Et la deuxième raison, c'est que ce fameux Abi Warburg dont je parle, il était si intelligent qu'il est devenu fou, bien sûr. Donc, dans les époques où il était dans son hôpital psychiatrique à Kreuzlingen, sur les bords du lac de Constance, il avait si peu confiance dans les hommes qu'en fait, il ne s'adressait qu'aux phalènes, c'est-à-dire des petits papillons. Les phalènes, ce sont des papillons assez banals, comme ça. Donc, je voudrais, en hommage à Warburg, vous parler de l'image comme un phalène, comme un papillon. Il y a des gens très sérieux qui, évidemment, penseront qu'on n'a rien à apprendre de bestioles aussi banales que les phalènes. Et donc, qui ne prendront pas le temps nécessaire pour regarder passer un papillon. Et cela dans la mesure justement où un papillon, ça ne fait que passer. Donc, en termes philosophiques, on dirait un papillon, ça ne relève pas de la substance, ça relève de l'accident. C'est un accident. Il aurait pu ne pas passer. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui croient que ce qui ne dure pas est moins vrai que ce qui dure, ou que ce qui est dur. Et c'est si friable, un papillon. Donc, un papillon, ce n'est pas dur. Un papillon, ça ne dure pas. Et donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça n'a rien à voir avec la vérité. Et le pire, c'est qu'un papillon, c'est joli. C'est esthétique, comme on dit. L'esthétique. Hein, Bernard ? L'esthétique, dans le genre de métier que je fais, c'est pas souvent un compliment. Hein. Les professionnels de la vérité emploient rarement le mot esthétique dans un sens positif. En particulier dans le domaine de la vérité historique ou politique ou religieuse. Esthétique serait un peu comme la cerise sur le gâteau du sérieux, quoi, le gâteau du réel. Esthétique, c'est décoratif. Esthétique, c'est inessentiel. Alors, un papillon, c'est joli, c'est esthétique. Mais c'est inessentiel. Si on dit que le papillon est très peu de choses, évidemment, on dit vrai. C'est très peu de choses, un papillon. Mais on aurait tendance à dire que c'est pire. On aurait tendance à dire que le papillon détourne notre vue de l'essentiel. C'est fascinant quand même, un papillon. La symétrie, les couleurs, enfin, c'est beau. Et le fait que ce soit fascinant serait aussi le signe qu'il porte en lui les puissances du faux, les puissances du charme, les puissances de l'apparence. Et en général, on oppose l'apparence à la vérité. Donc, peut-être pour beaucoup de gens, il est préférable de laisser passer le papillon et de passer à quelque chose de plus sérieux. Tu peux passer les deux suivantes. Et il y a des gens qui adorent les papillons, qui plongent leur regard dans les ocelles du papillon. Il y a des gens qui sont propices à regarder. Il y a des gens qui adorent observer, perdent leur temps à contempler. Il y a des gens qui attribuent aux formes une puissance de vérité. Il y a des gens, en général, bon, c'est les mêmes, hein, qui pensent que le mouvement est plus réel que l'immobilité. Voilà une chose philosophiquement considérable. Qu'est-ce qui est plus réel, le mouvement ou l'immobilité ? L'éternité ou le temps qui passe ? Il y a des gens qui pensent que la transformation des choses est peut-être plus riche d'enseignements que les choses elles-mêmes quand on les isole ou quand on croit les isoler. Alors, ces gens se demandent si l'accident ne manifesterait pas la vérité avec autant de justesse que la substance elle-même. Et que peut-être, d'ailleurs, cette fameuse opposition entre l'accident et la substance, c'est peut-être un faux problème. Alors ces gens acceptent de prendre, et non pas de perdre leur temps, de prendre le temps de regarder un papillon qui passe. Bien sûr, je suis en train de vous faire une image. Donc ce que je veux dire, ces gens-là prennent le temps de regarder une image. Une image que l'on croise, que l'on surprend à la cimaise d'un musée ou parmi les pages d'un album de photographie. Quelquefois, ces gens, pousse la passion jusqu'à aller dans l'atelier d'un artiste ou le laboratoire du photographe. Ils sont passionnés par la façon dont se fabrique une image. Alors, tu peux passer les deux suivantes, s'il te plaît ? Merci. Alors, ils observent la chrysalide. Ils attendent les yeux grands ouverts. Ils attendent... ils attendent la latence de la forme. Ils attendent de voir ce que ça devient de cette forme longtemps prisonnière. À un moment donné, ils surprennent un moment de gestation. À un moment donné, ils voient quelque chose qui se forme. Tu peux montrer les deux suivantes, toujours des deux côtés. Vous voyez ? Le papillon se forme. Et encore les prochaines. Merci. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit le papillon devenir mature. Il voit la chrysalide devenir imago. Et quand il voit ça, eh bien, il y a ce qu'on appelle une émotion. C'est-à-dire une mise en mouvement. Émotion. D'ailleurs, l'image aussi, une fois qu'elle devient imago, elle prend son envol. Émotion. Elle prend son mouvement. Son propre mouvement, l'image. D'où un paradoxe. Parce que c'est au moment où on peut enfin la voir, l'image, pour ce qu'elle offre de beauté, hein, la symétrie, les ailes, les couleurs, tout ça c'est magnifique. Mais c'est juste à ce moment-là que le papillon s'est déplié, et enfin on peut le voir. Mais c'est juste à ce moment-là qu'il s'en va. Qu'il prend son mouvement, donc il s'envole, donc il bat des ailes, donc on ne voit plus rien. Vous voyez le paradoxe ? Dès que l'image est formée, on ne la voit plus que de façon saccadée, parce qu'elle a son propre mouvement. Alors donc, le papillon s'envole, pour de bon. C'est-à-dire, le papillon s'en va. Et qu'est-ce qu'on risque alors immédiatement ? On risque de le perdre de vue. Et donc là, mon paradoxe s'aggrave encore. C'est-à-dire que finalement, on ne va plus rien voir du tout. C'est-à-dire que la splendeur colorée, minuscule, battante comme ça, rythmique du papillon, devient là-bas, très loin, un petit point noir minuscule dans l'air. Et puis finalement, on ne va plus rien voir. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir quelque chose, oui. On va voir l'air. On va juste voir l'air. Tu peux montrer les deux suivantes ? Celle de gauche, c'est un paysage de plage dans la brume peint par Gaspard David Friedrich en 1807. Et à droite, c'est une étude de nuages peinte par le grand poète allemand Goethe. Donc, on ne voit plus que l'air. Mais voir l'air, c'est encore un autre genre d'émotion, avouez. Bon, peut-être qu'on veut suivre le papillon, peut-être qu'on veut continuer de le regarder. Donc, on se met soi-même en mouvement. Il s'en va, donc on se met à courir. Ça s'appelle encore une émotion. À ce moment-là, je complique, excusez-moi. De deux choses l'une. Ou bien on est chasseur, ou bien on ne l'est pas. Si on est chasseur, si on est fétichiste, si on est angoissé de devoir perdre le papillon, qu'est-ce qu'on va vouloir ? On va vouloir l'attraper. Alors on court, on vise, on lance le filet, on attrape le papillon. À ce moment-là, probablement, il y a un genre d'émotion, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on fait après ? Ben, on prend le papillon, on le met dans un bocal avec de l'éther, on rentre chez soi, on épingle Phalène, le papillon, sur une planchette en liège. Tu peux montrer les deux suivantes ? Donc, là, ce que je vous montre, ce sont des photographies prises par le photographe Éric Poitevin de vieilles collections de papillons sur des planches de liège. Mais les papillons sont... Le temps a fait son travail aussi là-dessus, sur la collection elle-même. Bon, mais revenons au chasseur de papillons. Il est content, il a son papillon sur la planche de liège. Il est très heureux parce que maintenant, il voit parfaitement le dessin, la symétrie, les couleurs, la beauté, la réticulation des formes, les organisations rythmiques, les contrastes de couleurs, tout ça, il est content. Donc, il a une nouvelle émotion, un autre genre d'émotion encore. Il est tout à la joie de son trophée. Il s'aperçoit d'ailleurs que les couleurs du papillon restent fraîches pendant des années, c'est formidable. Mais il y a bien un moment dans sa vie où il va s'apercevoir qu'il manque quelque chose à cette image, c'est-à-dire l'essentiel, c'est-à-dire la vie. Il manque à l'imago, à l'image, au papillon, il manque son mouvement, il manque son battement. Il manque ses parcours imprévisibles. Et j'ajouterais même, parce que le fait que Goethe ait voulu peindre l'air, comme Léonard d'ailleurs, avant lui, il manque aussi aux collectionneurs, aux chasseurs, aux fétichistes, il manque l'air, c'est-à-dire il manque le milieu de vie, le milieu dans lequel ce papillon... était vraiment lui-même, c'est-à-dire en mouvement. Peut-être que l'émotion tombe, ou peut-être que l'émotion à ce moment-là change de nature. Alors on se rattrape avec l'érudition, on en collectionne d'autres, on achète d'autres épingles, d'autres planchettes de liège. On se met à vivre dans une odeur d'éther, on classe, on devient expert, et le résultat, c'est qu'on possède des images. Voilà, c'est assez mauvais signe. L'autre solution, c'est de ne pas être un chasseur-né, c'est en tout cas de ne pas songer une seconde à devenir l'expert de la chose. C'est de ne pas songer une seconde à posséder ce que l'on veut connaître. Qu'est-ce que c'est que cette idée qu'on posséderait ce que l'on veut connaître ? Connaître, il n'y a rien de plus beau que vouloir connaître. Mais posséder, c'est tout à fait autre chose. Donc il y a des gens qui ont envie de connaître, mais qui n'ont pas fatalement envie de posséder. Alors plus modestement, l'autre, il va juste vouloir suivre le papillon. Ça suffit. Le suivre du regard. Tu peux passer les deux suivantes ? C'est une image d'image d'image. Bon, il s'agit en fait là de photographies qui montrent une œuvre de Claudio Parmigiani où il pose un papillon, mais mort. Donc ça illustre moyennement mon propos. Et puis ensuite, il enfume une pièce. Donc, c'est la trace assez mélancolique de papillons morts sur un mur enfumé. Bon, bref, je continue ma métaphore. On veut suivre le papillon du regard, simplement, modestement. Et là, je répète, c'est une émotion encore d'un autre genre. Donc, on court derrière le papillon, toute la journée, mais sans filet, juste pour le regarder. On court derrière l'image. On se contente de l'admirer dans son mouvement. Et on admire dans l'image cela même qui nous échappe. On accepte ça. On admire le battement des ailes. On admire les motifs, mais ils sont impossibles à fixer. Ils vont, ils viennent, ils apparaissent et disparaissent au gré donc des parcours imprévisibles et des battements de l'aile, etc. Je continue mon image. On marche, on court comme ça derrière le papillon toute la journée. À la fin de la journée, la nuit se lève. Le jour tombe. Ça veut dire que le papillon est de plus en plus difficile à discerner. Au bout d'un moment, dans l'ombre, l'image disparaît. Dans le noir, c'est la nuit. Et là, émotion. Autre genre d'émotion. Voilà, on a perdu. Donc on attend dans la nuit, il ne se passe rien, on rentre chez soi. On allume la bougie sur la table. Et tout à coup, miracle, l'image réapparaît, le papillon. Émotion. On est presque heureux. On l'avait perdu dans la nuit, il revient à la maison. Tout à coup, on comprend que l'image ne nous a pas suivis. L'image ne nous aimait pas, ne nous suivait pas, ne tourne pas autour de nous, pas du tout. L'image nous ignore complètement. Le papillon se fout complètement de nous. Ce que le papillon désire, c'est la flamme. C'est vers la flamme que le papillon va et vient. C'est vers la flamme que l'image s'approche, s'éloigne, s'approche d'un peu plus près, et tout à coup, elle s'enflamme. Ça, c'est une émotion profonde à ce moment-là. Parce que sur la table, il ne reste plus que 3 grains de cendre. Voilà, j'ai terminé ma petite métaphore. Tout ça pour vous dire qu'il est difficile aujourd'hui de parler d'image sans parler de cendre. Pourquoi ? Parce que les images ont partie liée avec ce que j'appellerais le feu du réel. Les images ne sont pas du tout des fantaisies. On se trompe quand on confond l'imagination et la fantaisie. D'ailleurs, le plus grand théoricien de l'imagination, qui s'appelle Charles Baudelaire, a bien dit de façon très précise que l'imagination n'a rien à voir avec la fantaisie et que l'imagination est la faculté la plus scientifique qui soit, c'est-à-dire la faculté de pouvoir saisir ce qu'il appelle, lui, les rapports secrets, les connivences entre les choses. C'est-à-dire, vous faites un montage entre des ordres de réalité, vous apercevez qu'il y a un rapport secret qui n'était pas visible a priori entre des choses. Ça s'appelle l'imagination. Si on est d'accord avec Baudelaire, on est donc d'accord que ce que fait un grand savant et ce que fait un grand artiste ou un grand philosophe ont beaucoup de choses à voir. Les images ont à voir avec la cendre parce que les images sont des choses qui, je le répète, s'approchent du feu de l'histoire ou du réel et très souvent subissent ce feu. Donc il y a cendre. Les images sont menacées de pillage, les images sont menacées d'oubli, comme les trésors, comme les tombeaux. On pille les trésors, on profane les tombeaux, on détruit les images. Par exemple, il en est de même avec les textes. Il ne faut pas séparer, il ne faut pas dire les mots, les images, tout ça. Tout ça fait partie des mêmes... Les hommes s'inventent différents outils pour s'en sortir. Alors, par exemple, tu peux montrer les deux prochaines diapos ? Voilà. Quand on a sous les yeux un manuscrit de la mer morte, comme vous avez à gauche, un manuscrit biblique, ou quand on a sous les yeux le manuscrit des 120 journées de Sodome, du marquis de Sade, comme vous avez ici, on devrait à chaque fois penser qu'est-ce que c'est ce miracle que ce texte soit parvenu jusqu'à nous, qu'il ait vaincu tellement d'obstacles. Et on le sait, hein, les manuscrits de la Mer Morte, on a failli ne pas les trouver. Et puis le manuscrit de Sade, vous savez bien qu'on a cru qu'on l'avait perdu pendant... Sade lui-même pensait qu'il avait été brûlé. On a brûlé tellement de livres. Les deux prochaines, s'il te plaît. C'est-à-dire les autodafés de Hambourg ou de Berlin en 1933. On a brûlé tellement de bibliothèques. De la même façon, chaque fois qu'on pose son regard sur une image, on devrait songer aux conditions qui ont empêché sa destruction, sa disparition, parce qu'il a toujours été si facile de tous les temps, si courant de détruire les images. Et même les périodes les plus documentées de l'histoire, par exemple la Renaissance italienne, on croit que dans nos musées, on a la Renaissance italienne, mais on a une infime partie de la Renaissance italienne. La quantité de destruction est sidérale. Ce que je vous montre là, les deux prochaines, s'il te plaît. Merci. C'est un manuscrit byzantin qui montre justement une destruction d'images. C'est l'époque de l'iconoclasme byzantin. Et puis là, c'est un relevé de tout récent d'archéologues qui ont essayé de voir de quelle manière, en fait, les Bouddhas de Bamiyan avaient été érasés par les talibans. Chaque fois qu'on tente de construire une interprétation historique, et c'est pour ça que Michel Foucault, c'est très important avec cette notion d'archéologie. On devrait prendre garde à ne pas identifier l'archive dont on dispose avec le monde historique qu'on essaye d'imaginer. L'archive dont on dispose n'est qu'un reste minuscule, une lacune dans un immense corpus historique qui évidemment a disparu. Tu peux montrer les prochaines ? Je dirais que quand on est historien, on travaille dans des archives, dans un monde d'archives, avec cette odeur si particulière. Enfin bon, c'est très particulier d'être historien. On a des sensations bizarres dans ces lieux qu'on appelle les archives. Et l'archive, quand vous travaillez dans une archive... L'archive, vous avez l'impression que c'est gris, une archive. Et l'archive, c'est gris, c'est pas seulement gris parce que le temps décolore toute chose, c'est gris parce que les cendres de tout ce qui entourait cette archive ont brûlé. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est en découvrant, en fait, la mémoire du feu dans chaque feuille qui n'a pas brûlé, ce que vous voyez à gauche, c'est... Ce sont quelques livres de prières sauvés de la nuit de cristal en 1933. À droite, c'est un manuscrit du ghetto de Varsovie, un type qui écrit « Au secours » avant de mourir. C'est en découvrant donc dans chaque feuille qui n'a pas brûlé cette expérience de la cendre que nous devons faire un petit peu ce que Walter Benjamin demandait à l'historien, c'est-à-dire de reconnaître dans chaque document de la culture, c'est une phrase très célèbre de Benjamin, de savoir reconnaître dans chaque document de la culture eh bien, un document de la barbarie. Benjamin écrit « La barbarie est cachée dans le concept même de culture. » J'ai envie d'aller encore plus loin que lui. C'est-à-dire de dire qu'il a tellement raison quand il dit ça que même la réciproque de sa phrase est vraie. À savoir que nous devrions aussi travailler en tant qu'historien de l'art, par exemple, à reconnaître dans chaque document de la barbarie quelque chose aussi comme un document de la culture, qui en donne non l'histoire, bien sûr. Il y a une histoire de la barbarie. Mais dans la barbarie elle-même, il y a une sorte de mémoire culturelle qui est effrayante, mais qui est là. C'est-à-dire que si on veut faire une archéologie critique des objets de la culture, en particulier des images, mais ça vaut tout aussi bien pour la littérature et la musique, eh bien on doit faire cet effort. En particulier, je vais juste donner un petit exemple, les deux prochaines, s'il te plaît. On ne peut pas faire une histoire simple de la partition de Beethoven que vous avez à gauche, trouvée à Auschwitz, près d'une liste de musiciens que vous avez à droite, destinée à exécuter cette partition, la symphonie numéro 5, avant d'être eux-mêmes les musiciens, exécutés par leur bourreau mélomane. C'est juste à titre d'exemple. Pardonnez-moi, je suis un peu long, je vais passer. On est devant une image, on est devant quoi ? Quelque chose qui passe, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on est devant ce que j'appellerais un symptôme, c'est pas grand-chose. C'est en général un peu moins qu'un signe. Mais en même temps, alors, c'est un symptôme, ça passe, c'est un accident. Donc, à ce titre, j'appellerais ça une sorte d'interruption du savoir. C'est pour ça que je parlais de non-savoir tout à l'heure. En même temps, une image passe, une image est là, elle vous offre quelque chose comme une connaissance. C'est-à-dire que l'image, curieusement, et c'est là que c'est difficile d'analyser, c'est à la fois une interruption dans le savoir et une interruption dans le chaos. Il est très frappant que Benjamin ait exigé de l'artiste, exactement la même chose qu'il exigeait de lui-même, c'est-à-dire qu'il se considérait lui comme historien. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais sur artiste et associé tout à l'heure, à savoir... Il faut voir le lieu commun du travail. Benjamin l'a très bien dit. L'art, c'est comme l'histoire. C'est brosser la réalité à rebours. C'est aller à rebrousse-poil. Aller à rebrousse-poil, je dirais que c'est une chose qui est aussi vieille que l'idée de composer un poème qui s'appelle l'Iliade, par exemple. C'est aussi vieux que l'imitation. Et l'art de rebrousser l'histoire, de brosser l'histoire à rebrousse-poil, c'est aussi moderne que les désastres de Goya ou que l'histoire du cinéma de Godard. Entre l'Iliade et Godard, il y a évidemment... On pourrait tracer un pointillé. Tu peux montrer les deux suivantes ? En ce sens que, donc là je vous montre un désastre de Goya et un photogramme de Godard. En ce sens que l'artiste et l'historien auraient une responsabilité commune qui serait de rendre visible la tragédie dans la culture pour ne pas couper... cette culture de son histoire, c'est-à-dire voir que quand il y a un objet de culture, il a été lié à une tragédie éventuellement, ne pas couper la culture de son histoire, mais tout aussi bien, et c'est là où j'essaye de continuer la phrase de Benjamin, la culture dans la tragédie, c'est-à-dire ne pas couper la tragédie de sa mémoire. La façon même dont on assassine les gens est une façon culturelle. Il faut en faire l'histoire, il faut en dessiner la mémoire. Cela suppose en particulier, revenons à des choses plus agréables quand même, de regarder l'art, ce qu'on appelle l'art, à partir d'une fonction qui serait une fonction véritablement vitale, importante, brûlante, urgente. Ça voudrait dire ne pas voir, même quand on est historien, ne pas voir dans les images... vous savez, souvent les historiens de l'art en particulier regardent les tableaux exactement comme si comme un procureur regarde un suspect. C'est-à-dire qu'en fait on traite très souvent les cas historiques comme des cas judiciaires et on cherche en fait le coupable. Donc très souvent on a affaire à des historiens qui cherche le coupable. Qui a fait ça ? Qui est le coupable de ça ? Il ne faudrait pas seulement faire ça, ça peut être utile, bien sûr, de savoir qui a fait ça. Ne pas seulement voir qui est le coupable, mais là où ça souffre. Regarder dans les images, non pas qui est coupable, mais là où ça souffre. Et il y a une expression magnifique de Benjamin à propos des images, lorsqu'il dit qu'elles ont quelque chose à voir avec des fonctions d'avertisseur d'incendie. Ça va brûler. Et l'image est là pour déjà indiquer le feu dans lequel elle-même l'image risque de se perdre. Donc, regardez une image, essayez de discerner là où elle brûle, pas ce qu'elle représente. Bien sûr, elle représente. Ça, c'est facile de voir ce qu'elle représente. Mais voir là où elle brûle. Voir, essayer de comprendre là où son éventuelle beauté réserve la place d'une sorte de crise qui n'est pas apaisée. Essayer de voir dans une image là où la cendre n'a pas refroidi. Vous me permettez un petit commentaire de Benjamin, quelques minutes, si, quand vous en avez marre, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas de montre. Benjamin, quand il parle de l'image, c'est dans les années 30, pour lui, c'est l'âge de l'image photographique, c'est avant tout la photographie. Tu peux montrer les deux suivantes ? Il a cette chose magnifique de dire qu'il ne s'agit pas de se poser de la question de savoir si la photographie est un art ou pas. Ce n'est pas du tout la question. La question, c'est de savoir en quoi tout l'art à l'époque de la photographie a été modifié par l'existence de la photographie. C'est ça la bonne question. Donc, Benjamin se fiche complètement de ce qu'on appelle la photographie d'art. La question n'est pas du tout de savoir si un photographe se veut ou non créatif, comme on dit. Ce n'est pas du tout la question. Il faut savoir comment le médium photographique, l'art photographique, a travaillé complètement la société tout entière. Et ce que Benjamin admire chez un photographe comme Adjaye, vous savez, c'est ce photographe totalement modeste qui ne se prenait vraiment pas du tout justement pour un artiste, qui était Adjaye, qui a photographié et qui a fait des milliers de photos de Paris. Tu peux montrer, je crois, les photos suivantes. Voilà, tu peux y aller. Il y en a 5 comme ça. C'est des photos du Paris des années 1890-1910. Ce que Benjamin admire dans ces images, c'est la capacité de Adjaye à ce qu'il appelle démaquiller le réel. Ça, c'est des prostituées. Et ça, je crois que tu peux t'arrêter là. C'est le chiffonnier. Le chiffonnier, vous savez, Adjaye a photographié les chiffonniers de Paris et Benjamin en a tiré toute une leçon théorique comme quoi le véritable historien agit exactement comme un chiffonnier, en fait. Ce qu'il admirait, Benjamin, dans ses images, c'était pas le fait qu'Adjaye faisait des belles images. C'était pas le fait qu'Adjaye serait ou non un artiste. La question ne se pose pas. La question qui se pose, c'est la capacité de ce photographe à s'être fondu dans les choses, dit Benjamin. Qu'est-ce que c'est se fondre dans les choses ? Bon, ça pose le problème, par exemple, du reportage photographique, du reporter. Se fondre dans les choses. Se fondre dans les choses, ça veut dire d'abord être sur place. C'est-à-dire, je photographie une situation, mais je ne suis pas derrière. Je suis au milieu de la situation. Je suis impliqué dans la situation. Se fondre dans les choses, c'est voir en se sachant concerné par la situation, regarder éventuellement en danger dans cette situation. Ça veut dire voir en se sachant impliqué. Tenter de donner aux autres, grâce à l'image, une possibilité d'expliquer certaines choses, mais en passer par l'implication. Dans le cas d'Adjaye, c'est encore plus. Se fondre dans les choses, c'est demeurer, c'est habiter un certain temps. C'est pas passer une semaine juste au Rwanda, faire quelques photos de massacre et s'en aller. Pas du tout. C'est rester. C'est habiter. C'est être avec les gens. C'est faire de la durée une expérience. Et c'est fondamental, bien sûr, c'est de faire cette expérience une forme. Donc, la grande question, je la modifie maintenant, la grande question de qui est posée là, c'est comment à la fois proposer une implication et une explication. Si on n'est que impliqué, on ne voit rien. Si on n'est que explicatif, on ne comprend rien. Donc, il faut savoir... Mais les artistes font ça. Il faut savoir offrir une connaissance qui nous permette de nous donner des moyens d'expliquer, mais que cette connaissance soit implicative, c'est-à-dire que nous nous sentions regardés par ce que nous voyons, c'est-à-dire que nous ne sommes pas simplement des spectateurs. C'est-à-dire, au-delà du reportage, ce qu'on appelle le reportage, et il y a des mots très durs de Benjamin sur le reportage, faire de l'expérience photographique, par exemple, de Paris, une véritable expérience, ce qu'on appelle une expérience. Il y a un passage dans le même article de Benjamin sur la photographie qui est extraordinaire, parce qu'il dit beaucoup sur nous aujourd'hui. Il parle de ce qu'on appelle un analphabétisme de l'image. Il dit que nous sommes des analphabètes devant les images et que c'est très grave parce que c'est le signe que nous sommes aussi des analphabètes devant l'histoire, le texte, les discours, le pouvoir, la réalité. Il dit ceci. Je résume, hein, j'essaye de faire un... Si ce que vous regardez dans une image... quand vous ouvrez, je ne sais pas, un magazine, appelle en vous un cliché linguistique, alors il y a de fortes chances que vous soyez devant un cliché visuel et non pas devant une véritable expérience d'image. Si au contraire, vous tombez sur une image... et qu'à ce moment-là, la lisibilité de l'image, tout à coup, ne va plus du tout de soi. Vous prive de vos clichés, vous prive des mots pour le décrire, vous prive de vos habitudes linguistiques ou de vos habitudes de pensée. Ce qui suppose d'une part un suspens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez être tout simplement muet devant cet objet visuel, mais pas muet et ineffable, simplement muet, incapable de dire mais exactement c'est quoi que je vois et comment je vais faire pour le décrire. Quelle est l'étrangeté qui fait que je n'arrive pas à trouver directement le cliché linguistique qui correspond à ce que je vois. Si ça se passe, c'est très bon signe. Ça veut dire que l'image est en train de modifier quelque chose en vous à ce moment-là. Elle vous demande, si vous y êtes attentif évidemment, elle vous demande un travail de construction. Construire ce silence, cette mutité, reconstruire votre langage, car on voit pas avec ses yeux, hein. Vous savez bien, on voit avec ses yeux, mais on voit surtout avec son langage. Donc, vous êtes devant l'image, vous comprenez rien, vous êtes suspendu, vous êtes interloqué. Interloqué, c'est bien, hein, ça veut dire que le langage... il est coincé quelque part, et là, vous devez reconstruire votre langage. Ça veut dire, je résume, qu'une image bien regardée, ça serait une image qui aurait su d'abord nous interloquer, c'est-à-dire interrompre les clichés linguistiques en nous, puis renouveler notre langage. C'est ça, une image bien regardée. Et si on s'arrêtait là? Ça vous va? Je vais peut-être juste vous montrer les... Bon, j'avais d'autres images à vous montrer. Peut-être qu'on peut les passer, tout simplement. Et puis, peut-être en dire deux mots. Pourquoi je montre ces images? Parce que Celle de droite, c'est un auto-da-fé, toujours à Berlin. Celle de gauche, c'est un lynchage aux États-Unis. Pourquoi je montrais cette image ? Parce que ce qui est absolument terrifiant dans cette image, ce n'est pas seulement l'image elle-même, c'est le fait qu'elle ait été éditée en carte postale. Les suivantes. Ah oui, j'avais quelques mots sur le fait que à la fin de la guerre, les nazis, évidemment, ont tout fait pour détruire les archives de leur entreprise de destruction. Et là, on voit les explosions produites par les officiers SS eux-mêmes des crématoires d'Auschwitz. Tu peux passer les suivants ? Bon, Auschwitz. Suivante, s'il te plaît. Je veux dire les cendres. Et puis, dans les cendres, ces fameux témoignages, les manuscrits des membres du Sonderkommando, ces gens qui, avant de mourir, ont écrit ce qu'ils voyaient au moment même où ils le subissaient. Et ils ont enterré dans les cendres ces textes. Et il a fallu des archéologues pour retirer ces textes des cendres, les rendre visibles, etc. Les suivantes, s'il te plaît. Et puis, ces fameuses photos sur lesquelles j'avais travaillé et que j'estime être des documents comparables à ceux que vous venez de voir, c'est-à-dire des témoignages. En ce sens-là, des images qui brûlent encore ou des images extraites de ces cendres-là. Les suivantes, s'il te plaît. Et puis, ce qu'on voit dans le Nouvel Obs toutes les semaines. L'Irak. Les suivantes, s'il te plaît. Benjamin. Sa façon d'analyser les photos de Zander. Comment Zander, ce photographe extraordinaire, comment ce type-là regardait dans les années 30, l'Allemagne en train de se modifier. Les suivantes, s'il te plaît. Et puis, je voulais vous raconter rapidement l'histoire de cet artiste qui s'appelle Alfredo Yar, qui est un artiste chilien qui est allé au Rwanda juste après le génocide. C'est un photographe. Donc, il a fait des milliers de photos. Les suivantes, s'il te plaît. Et il a compris très vite que s'il montrait les photos qu'il avait prises, ces photos-là auraient été perçues comme des clichés. Donc, il a tiré toutes ces photos, des milliers de photos, et il les a mises dans des boîtes, genre minimalisme, en attendant. Il y a des critiques d'art, à mon avis, qui se sont trompés en disant qu'il les a enfermées définitivement. Pas du tout. Elles sont là, elles sont développées. Un jour, elles seront lisibles. Un jour, elles seront visibles. Pour l'instant, lui, en tant qu'artiste, il expose le volume de ses images. Les suivantes, s'il te plaît. Ou bien, il a parlé avec une survivante, en particulier, mais il a parlé avec beaucoup de gens, il est resté plusieurs mois, et il a fait la photo des yeux d'une survivante du génocide rwandais. Et en fait, il a fait une œuvre dont vous avez une vision un peu là. C'est une immense table de diapositives, vous savez, des tables lumineuses, et il a tiré cette même diapo à plus d'un million, la même. Plus d'un million, c'est à peu près le nombre des victimes de ce génocide en quelques semaines. Et il y a aussi les petits appareils, vous savez, les comptes-fils, où chacun peut voir la diapositive de près. Suivante. C'est encore la même œuvre, où on voit donc le regard de cette femme à plus d'un million d'exemplaires. Suivante. Ça, c'est une œuvre de Pascal Convert sur laquelle on pourrait longuement parler. D'ailleurs, je pense que je reviens sur ce que je disais au tout début, sur le fait que ce que je dis là est en relation avec les projections des travaux de l'association Artistes et Associés, et qu'il faudrait peut-être, il faudrait peut-être interroger Pascal Combert sur les œuvres qu'il a peut-être un peu trop de modestie à ne pas nous en parler là dans ce contexte. Et qui sont des œuvres qui ont beaucoup à voir aussi avec la cendre. Alors, ce sont des œuvres. Ça, c'est une œuvre en cire grise. C'est une œuvre en cire grise, monumentale, et qui part d'une image que tout le monde connaît et que vous n'avez pas reconnue, bien sûr, en regardant ces images, parce qu'il a fait un travail formel considérable, parce que les choses sont inversées, etc. Mais c'est une image très célèbre de la presse que vous avez tous vue. Et puis voilà, elle se trouve transformée, est devenue problématique. Évidemment problématique devant l'œuvre, pas devant les diapos un peu maladroites que je vous montre. Mais voilà, il faudrait voir aussi comment ces artistes, je parlais donc de ces deux exemples, Alfredo Yar ou Pascal Convert, proposent en fait quelque chose... Il faudrait que je retrouve... Non, enfin, c'est une phrase magnifique de Deleuze qui parlait du pouvoir qu'aurait l'image de proposer, en fait, quelque chose comme une contre-information. L'image propose une contre-information. Donc, il ne faut pas dire qu'elle nous ment. Elle nous ment bien souvent, bien sûr. Mais il faut voir en quoi elle nous propose une contre-information. À ce titre-là, elle est évidemment salutaire. Voilà, merci.